La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Comme vous l'avez certainement deviné en entendant l'intervention de Pascal, le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est...
L'harmonica.
L'harmonica est un instrument qui est trop souvent négligé dans nos émissions et pourtant il a joué dans le jazz et surtout dans le blues un rôle considérable.
Oui, parce que c'est un instrument finalement très petit, très sonore, pas bien cher et qui est indissolublement lié à l'histoire des émigrants américains.
Figurez-vous que le principe même de l'harmonica se retrouve dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ en Chine. Et on dit même qu'une origine encore antérieure se trouverait au Laos. Et on ne sait pas très bien à quel moment l'harmonica a fait surface dans sa forme moderne. On pense que c'est vers 1820.
Là, il y avait un monsieur qui s'appelait Honer. Ça vous dit bien quelque chose, Honer ? Eh bien oui, la moitié des harmonicas sont fabriquées encore maintenant sous le label Honer.
Et ce monsieur Honer, il a également beaucoup sévi dans l'accordéon plus tard. Mais ce monsieur-là, il avait un voisin bijoutier qui fabriquait des harmonicas, car à l'époque, en 1833, l'harmonica était considérée comme une œuvre de bijouterie. Et il s'est dit, je suis horloger, je suis bien capable d'en faire autant et même mieux pour tout ce qui est les lames, la mécanique de l'harmonica, mais ils n'étaient pas aussi beaux que ceux de son voisin bijoutier, il ne les vendait pas bien. Et tu sais l'idée qu'il a eue ? Il avait un cousin en Amérique, il lui en a envoyé quelques-uns.
Et oui, parce qu'il s'est dit, là-bas, c'est vraiment l'instrument idéal, et puis c'est un nouveau monde, c'est que des jeunes qui partent. Donc, avec un peu de chance, j'en vendrai quelques-uns.
Ah, tu penses ? La première année, il en a envoyé 700. 10 ans après, il avait passé les 20 000. Et 30 ans après, la maison Honer, qui était devenue une vraie usine, avait largement dépassé le million par an.
Rendez-vous compte un peu. Hein. Ça, c'était une idée. Hein.
Alors, l'harmonica est présent dans le jazz et surtout dans le blues. Mais on va quand même commencer par le jazz pour garder le plus significatif pour la fin. Et quand on pense harmonica en Europe, on pense à un musicien belge, figure-toi, qui s'appelle Toots Tielemans. Alors, il est un peu controversé, parce qu'il est aussi guitariste. Certains le préfèrent à la guitare, d'autres à l'harmonica. Mais c'est quand même grâce à l'harmonica qu'il s'est fait un nom. Et un jour, on l'a fait enregistrer avec le trio du pianiste Ray Bryant, ce qui était quand même une très heureuse idée, parce que Ray Bryant est un fameux musicien. Et voici un échantillon de cette harmonica belge, de ce jazz d'outre-Cuivrain.
Il parle bien, hein, Laurent Verdoux. Franchement.
Et ça s'appelle
5 o'clock whistle.
Le sifflet de 5 heures. Peut-être fait-on allusion à la bouilloire du thé.
Sait-on.
On va savoir. Thank you. Cet enregistrement de Tout Stillement, c'était quand même pas très ancien. Mais on n'a pas attendu les années 80 ou 90 pour faire de l'harmonica en jazz. En fait, on retrouve dès l'avant-guerre un virtuose qui s'appelait Larry Adler.
Alors son histoire est un peu étonnante. Il commence des études tout à fait classiques avec le piano, etc. Et puis pour son plaisir, comme ça, dans sa chambrette, hein, il joue de l'harmonica. Et finalement, l'harmonica va devenir son instrument principal. Il en joue d'une manière tellement virtuose qu'il devient le spécialiste. Un blanc, hein, c'est pas un noir. Il devient le spécialiste de l'harmonica. Et,
en jazz.
Oui, en jazz. Et il se produit partout, même au Carnegie Hall, qui est quand même l'endroit où les musiciens classiques font florès. Hein.
Il faut dire que la conquête du Carnegie Hall par le jazz a quand même été assez longue à faire. Hein. Mais c'est un endroit magnifique, totalement emblématique. C'est le temple de la musique à New York.
Alors, il fréquente des gens, alors le nec plus ultra, genre Charlie Chaplin, Greta Garbo, Gloria Swanson, qu'on connaît moins maintenant parce qu'effectivement, ah oui, elle est un peu passée de mode quand même.
C'est du temps du muet, Gloria Swanson.
Salvador Dali.
Et les frères Gershwin. Et George Gershwin est un de ses grands amis, compositeur. Et c'est pourquoi nous avons choisi de vous faire entendre Larry Adler dans un morceau de Gershwin qui s'appelle I Got Rhythm. Et là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que il a enregistré ça en Europe, avant-guerre, avec Django Reinhardt.
Et Grappelli, curieusement pas au violon, mais au piano.
Et vous allez pouvoir apprécier, on l'a déjà dit dans cette émission, on ne le dira jamais assez, que Grappelli, qui est très connu pour le violon, est un très grand pianiste de jazz. Dans le jazz, tu sais, dans les orchestres de jazz, il y a des gens qui savent jouer d'un instrument, hein, mais sinon il ne serait pas là d'ailleurs, mais également qui cultivent un autre instrument comme ça pour le plaisir. Et bien souvent, les chefs d'orchestre leur font faire un petit gag comme ça sur scène en passant.
Et d'ailleurs, c'est un peu leur plaisir, c'est un peu la petite cerise sur le gâteau. Ils ont l'habitude de jouer d'un instrument, mais c'est leur plaisir de jouer d'un autre.
Par exemple, tel guitariste, on va le faire venir sur le devant de la scène pour jouer du kazoo pendant un morceau, tu vois, chose comme ça. Et là, notre héros s'appelle Eddie Chou, il est saxo-clarinettiste dans le big band de Gene Krupa, mais il joue de l'harmonica. Et donc, dans chaque concert de Krupa, on réserve une petite place pour l'harmonica d'Eddie Chou.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va vous passer Harmonica Chou Boogie.
Dans un autre genre de jazz, le jazz Nouvelle-Orléans, rénové par l'orchestre Wilbur de Paris, qui a vraiment illustré sa fière devise de la nouveauté dans la tradition de manière absolument exemplaire, avec de très grands musiciens. Dans cet orchestre-là aussi, on va retrouver un talent annexe d'harmonica.
Eh bien, c'est un certain Wilbur Kirk. Dans la vie courante, il est batteur. Vous allez dans Sister Kate, qui est le morceau que nous allons vous passer, entendre Wilbur Kirk jouer de son, allez, petit péché mignon, l'harmonica.
En américain, on dit la harpe de bouche ou même la harpe française. Sister Kate, on ne sait pas très bien qui c'est l'héroïne d'une chanson. Et le titre complet de la chanson, c'est « Ah, que j'aimerais danser le chimie avec ma sœur Catherine ».
Thank you.
Maintenant, voici Jean-Jacques Milteau. Ah, vous vous dites, ça a une consonance bien française. Oui, oui, parce que c'est un Français, cet harmoniciste. Et il a été découvert au Jazz Band Ball, 72. Il faut savoir ce que c'était que le Jazz Band Ball. Imaginez une salle remplie à ras-bord de jeunes totalement déchaînés. Si ça plaisait, ovation, tapement de pied. Et si ça plaisait pas, c'était des jets d'objets sur la scène, des cris d'animaux, des hurlements. Et l'orchestre n'avait plus qu'à s'en aller piteusement. Je dirais. Donc c'était un peu la fosse aux lions, le Jazz Band Ball.
Ah, ça c'est sûr. Ça se passait donc à Paris, dans le quartier latin, à la Mutualité, pour être exact. Il y avait quelque chose comme 3000 places, mais on avait l'impression qu'il y avait des gens jusque sur les murs. C'était absolument incroyable.
C'était un peu un bateau ivre, vous voyez.
Quand je raconte ça, moi qui en ai fait trois avec un grand orchestre, j'ai l'impression de raconter la guerre de 14. Parce que c'était quelquefois très très chaud. C'est là qu'on a vu débarquer un orchestre qui s'appelait Backdoorman et dont le leader était un harmoniciste qui a tout de suite tiré l'oreille de tout le monde. Et c'était donc
Jean-Jacques Milteau. Et il jouait d'une façon très particulière.
Ah ben il jouait du blues, parce que là maintenant nous sommes passés au blues. Et autant le jazz que vous avez entendu se passe à l'harmonica chromatique, autant le blues se passe à l'harmonica diatonique, et c'est très différent.
Le chromatique, vous avez une sorte de tirette, vous appuyez dessus, vous avez les demi-tons. Vous enlevez, ils y sont plus, les tons entiers. Mais les bluesmen qui étaient des gens tout à fait financièrement très très modestes n'avaient souvent pas de quoi se payer ces instruments chromatiques qui étaient beaucoup, beaucoup plus chers. Donc, ils ont appris à faire les demi-tons en occultant soit avec leurs lèvres, soit avec leur langue. Enfin, bref, dans un harmonica, je dirais, normal, eh bien, ils arrivaient à faire les demi-tons de façon géniale.
Avec les mains aussi, beaucoup devant l'harmonica.
Aussi avec les mains. Ça, c'est toute une technique, il faut savoir le faire.
Hein. Eh ben, en jazz, on a tendance à malaxer le son pour qu'il ressemble à une voix. Il ne faut pas perdre ça de vue, jamais.
Hein. En plus.
Ce que vous venez d'entendre, ce n'est pas le Jean-Jacques Milteau que nous avons découvert au Jazz Ben Bull de 72, parce que le disque correspondant, il n'a jamais pu être trouvé. Mais c'est ce qu'il a fait, après être devenu une grande star du blues, c'est ce qu'il a fait à Memphis, Tennessee, place forte du blues américain, après un bon travail de studio, comme vous avez pu l'entendre. Et maintenant, après ce blanc qui est allé enregistrer chez les Noirs, voici un Noir qui est venu faire des concerts chez les Blancs. Et c'est un cas.
Il s'appelle Hammy Nixon, il joue de l'harmonica et il jouait pour et avec un bluesman qui s'appelle Sleepy John Estes.
Ce Sleepy John Estes, c'était une des grandes légendes du blues.
Et il a une histoire assez incroyable. En 1962, tout le milieu blues apprend que Johnny Estes est mort.
Puis alors en plus, comme c'est Big Bill Brunzi qui le dit...
bon. On ne met pas ça en doute. Et 2 ans après... Quelle surprise! Le mort réapparaît. Il n'était pas du tout mort.
C'est-à-dire, quand on a vu son nom sur une tournée de bluesmen qui s'appelle l'American Folk Blues Festival, on s'est demandé si c'était pas un type qui avait pris son nom.
Ben non, c'était bien lui.
Et quand on l'a vu arriver, c'était bien lui, oui.
Et il était assez cool, hein. Oui, on a dit que j'étais mort. Bon.
C'était un tout petit bonhomme avec de grosses lunettes. Et c'était un bluesman, un des plus grands de tous.
Et il se faisait toujours accompagné par un harmonica. C'était un peu comme le tampon du Sud, vous voyez. Il y avait toujours l'harmonica chez lui.
Et dans sa vie, il y a eu 2 harmonicistes. Il y a eu Noah Lewis dans les premiers temps. Et dans les années de la fin de sa carrière, il y a eu Hammy Nixon. C'est lui que nous allons entendre parce que naturellement, il était venu avec lui dans cette tournée.
Et on a même, nous, assisté à ce concert dans un endroit tout à fait privilégié puisque c'était derrière la scène.
Ah, c'est très simple, nous étions à 2 mètres de ces messieurs, séparés par le rideau de fond de scène, simplement. Alors ça vous étonnera peut-être comme situation, alors que nous, personne ne nous connaissait. Hein. Mais il faut savoir qu'à cette époque-là, il n'y avait pas foule dans les coulisses des 2 heures de concert. On arrivait généralement avec un musicien qu'on connaissait, comme Memphis Slim ou quelqu'un comme ça. Et on assistait à la balance, à la mise en place. On donnait un petit coup de main le cas échéant. Et puis finalement, on faisait un peu partie du décor et on se mettait où on voulait. Il n'y a aucun service de sécurité. Et vraiment, entendre Sleepy John Estes à 2 mètres de distance, sans aucun ampli, micro ou rien comme ça. On était assis à côté de lui. C'est un souvenir pour nous absolument extraordinaire. Voici Vernita Blues. You know I could come to love you. Allez, on va faire un petit retour aux sources maintenant.
Avec Jazz Gillum, c'est un chanteur et harmoniciste.
Oui, parce qu'il y a les chanteurs qui sont accompagnés par un harmoniciste, mais il y a toute une école de chanteurs et harmonicistes. Le premier qui s'est illustré dans ce genre de sport s'appelait donc Jazz Gillum, et là nous allons l'entendre avec Big Bill Brunzi à la guitare, dans un morceau qu'il a rendu très célèbre, et ce morceau s'appelait...
Key to the Highway.
C'est presque la clé des champs. En tout cas, c'est la clé de l'évasion, c'est la clé de la grande route.
I got the key to the highway, built out and bound to go. I'm gonna leave here running, because walking is most too slow. I'm going back to the border, where I'm better known. Cause you haven't done nothing but drove a good many away from home. Give me one more kiss, mama, just before I go. Cause when I'm leaving here, I won't be back no more. Mountain, honey, I'll be on my way. I'm gonna walk this highway until the break of day. Well, it's so long, baby, I must say goodbye. I'm gonna roam this highway until the day I die.
Et maintenant, alors, quelqu'un de vraiment, vraiment très connu, c'est Sonny Terry.
Quand on pense à Sonny Terry, on pense immédiatement à Brownie McGee, puisqu'ils étaient absolument tout le temps ensemble. L'un était guitariste et bancal, et l'autre était harmoniciste, Sonny Terry, et aveugle. Et ils ont fait pratiquement toute leur carrière ensemble. Et nous les avons vus arriver à Paris dans le cadre d'une tournée concurrente de l'American Folk Blues. Et cette tournée-là s'appelait la Blues and Gospel Caravan.
On aurait dû d'ailleurs l'appeler plutôt la caravane du désert. Parce que lorsque les musiciens sont arrivés à Paris, eh bien les organisateurs étaient absents. Il n'y avait rien de prévu pour eux. Ils avaient très faim. Ils avaient très grand sommeil. Et personne ne savait où ils devaient aller.
Mais nous, les amateurs, nous étions là et on a tout pris en main. On a fait donner les chambres d'hôtel, on les a emmenés manger dans un restaurant voisin, aux frais de l'organisateur, qui est arrivé beaucoup plus tard avec son carnet de chèques. Et on a fait connaissance avec tous ces gens passionnants. Et après, on les a vus en concert. Sonny Terry et Brownie McGee, voilà à peu près ce que ça donnait. Le morceau s'appelle...
Stranger Blues.
McGee, I gotta tell you the title of this moment. There's a whole lot of things, Sonny, that can make you strangers. Besides... A door without, a house without a door with a lock on it. Makes you feel like a stranger more than anything in the world. Uh-huh. I'm a stranger here, just bloating your tent.
Oh, yeah.
Wow, wow, wow.
I'm a stranger here, just brought in your town. Well, because I'm a stranger, everybody wants to dog me round. Well, I wonder why some people treat some strangers so. Oh, yes, I do. I wonder why some people treat some strangers so. Well, he may be your best friend that you will never know. I'm gonna ride home today. Send me my ring of fast. Oh, yes, I am. Ride home to daddy, send me my railroad pass. Well, if he don't send it, I don't mind walking down. Well, I'm going back home. I wear 99 pair of shoes. Oh, yes, I am. Well, I'm going back home. Well, 99, that's you. Well, when I get back home, I won't have them old stranger blues.
Go ahead, walk, come.
Alors là, nous arrivons pour moi aux trois plus formidables harmonicistes de blues qui soient. Et il y en a deux qui portent le même nom.
Et oui, parce qu'il y en a un qui était tellement, tellement admiratif de l'autre que lorsque ce Sonny Boy Williamson 1, si on peut dire, est mort...
Assassiné à coups de pique à glace par un mari jaloux, je vous signale.
Oui,
hein.
Oui.
Méfiez-vous.
Méfiez-vous, ça peut arriver.
Et des maris jaloux et des piques à glace.
Oui, ça peut arriver, ces choses-là. Eh bien... il a pris son nom.
Oui, le deuxième s'appelait Rice Miller en réalité. Tu as tout à fait raison.
Et finalement, c'est Sonny Boy Williamson 2.
Mais comme il avait attendu correctement que l'autre casse sa pipe, on n'en a jamais eu deux à la fois. Faut être honnête. On va commencer par le premier qui était un extraordinaire musicien.
Il joue avec un certain Joshua Altheimer au piano.
Et là, il y a quand même quelque chose à souligner. Pour Big Bill Brunzi et pas mal de gens de cette époque-là, ce Joshua Altheimer qui n'a jamais fait un disque sous son nom et dont il n'existe, je crois, aucune photo même. C'est le plus grand pianiste de blues qu'ils aient connu. Ils disaient tous ça. Il est mort à 29 ans d'une pneumonie et il a laissé un énorme vide derrière lui, à tel point qu'on a appelé Memphis Slim, qui était un peu partout à la fois à l'époque, pour le remplacer aux côtés de Big Bill Brunzi. Et quand on pense à la carrière qu'a fait Memphis Slim, on peut se dire, Joshua Altheimer avait quand même devant lui un sacré avenir. Et il était écouté, ce pianiste. Il vaut vraiment la peine d'être écouté.
Jiving the Blues.
Now, come here. I just want to talk with you, you know. I want to show you how to soothe the cue. Now, what? I don't have to work your feet. Just hold up your fingers. I'm going to show you now, you watch. I don't care nothing about your engagement ring. Oh, come on, at least you can talk with me, you know. Oh, just let me tell you something, you know. Oh, I don't want to marry no way. Now watch. You ain't coming at all, huh? Oh, I know you don't love me. You love somebody, but I just want to talk with you. Let Sonny Boy just tell you a word, yeah? Oh, that's the way you do me snub. But what? I'd have met you much earlier, you know, when I did. Maybe I'm a little too late. But I just want to show you how to soothe the cue. Come on, you have to work your feet, just hold your fingers. Look, now I'm going to teach you. Now you just watch.
Que vous allez entendre maintenant, alors là, c'est les vraies, vraies conditions du direct.
Ah oui, c'est sûr.
Sauf que c'était en 63. Mais c'était les conditions du direct, car ce merveilleux harmoniciste est accompagné par une sorte de bruit de souris. C'était le magnétophone de l'époque qui faisait cette espèce de petit...
C'était absolument odieux, parce que nous, par hasard, on était assis juste à côté... était venu ce soir-là au Blues Bar tenu par Maë Mercer, rue Saint-Séverin. Et on était juste à côté de cet enregistreur qui avait été mis là. On ne pensait pas qu'il ferait un disque avec un jour. Et on entendait la bande qui couinait sur une des rondelles à chaque tour. C'était odieux.
Crispant, vous voyez.
Mais Sonny Boy Williamson, le second, il s'en moquait complètement. Et c'était quand même une vision absolument étonnante. Il avait une petite barbiche. Il était grand et maigre comme un clou. Alors, moi, il était... vraiment très très maigre. Et alors il sortait, en fonction des morceaux, il sortait des harmonicas de toutes ses poches, minuscules. Il y en avait un par tonalité, il y en avait partout, dans les deux poches de Gousset, dans la poche de poitrine, partout.
Franchement, on pense qu'il avait au moins une douzaine d'harmonicas.
Ah, c'était incroyable. Et là, nous avons choisi de vous faire entendre un morceau où vraiment il démontre tout ce qu'on peut faire avec un harmonica. Je crois pas qu'on puisse en faire plus que ça. Et ce morceau s'appelle...
Getting Out of Town. Thank you.
Take my place. She's like you're doing my favor. Come on, else I'm taking my place. Cause I'm getting on out of town. Cause she done put me down. So bad. Look at the good things I've had. Goodbye. Thank you.
Comme tu vois, M. Rice Miller, dit Sonny Boy Williamson, maniait l'harmonica en virtuose et, comme lui était plus prudent que son prédécesseur, il n'a pas provoqué les maris jaloux.
Voilà, et il a vécu beaucoup plus vieux.
Et on a pu, comme ça, en profiter un petit peu pour l'entendre en direct.
Le suivant, malheureusement, non. Alors lui, il est mort bien jeune.
Oui. Il avait 38 ans, il avait très mauvais caractère et il est mort dans une rixe, dans la rue, devant la boîte où il jouait.
Eh oui, fâché, mais dur, dur. Il en est mort.
Dur. Et ce Little Walter, c'est un extraordinaire musicien, de son vrai nom.
Marion Walter Jacobs.
Et là, c'est l'inventeur de l'harmonie, enfin, si l'on peut dire, de l'harmonica électrique, ou en tout cas de la manière de s'en servir dans le blues. Et sa disparition a causé une énorme émotion parce que tout le monde admirait énormément ce musicien et tous les jeunes harmonicistes s'étaient mis à son école.
Ils le copièrent, absolument.
Little Walter était célèbre pour l'atmosphère qu'il savait donner à un moment passé avec lui, rien que par sa musique.
Son surnom, c'était Little Walter. Mais l'atmosphère qui donnait, l'impression qu'avaient les gens, c'est qu'en réalité, il y avait Big Walter derrière et que c'était diabolique.
C'est ce qu'on disait de Little Walter souvent. Craignait un peu quand même.
Oui. Enfin, il est mort, pauvre homme.
Alors naturellement, il est mort peu avant l'heure du crime, c'est-à-dire à minuit moins le quart. C'est le titre du morceau suivant.
Baby, don't go yet, it's only a quarter to 12.
Et avant de terminer par notre surprise, nous allons vous passer un musicien de campagne qui n'avait jamais, jamais quitté sa région, ses petits villages, j'allais dire. Car c'était un homme d'une grande simplicité, mais un musicien tout à fait exceptionnel. Il s'appelait Papa Lightfoot.
Et vous savez, dans les campagnes du Mississippi, il y avait des collecteurs qui se baladaient et qui faisaient quelquefois enregistrer les gens sur des studios de fortune. Et c'est comme ça qu'on a connu Papa Lightfoot. Ce type, il est tellement jubilatoire, tellement original que vraiment nous allons vous faire entendre sa version très personnelle de When the Saints Go Marching In.
Thank you.
Surprise, disais-tu.
Oui, nous avons pensé que ce serait bien de terminer par le régional de l'étape.
Car ici aussi, nous avons notre harmoniciste.
De blues.
De blues, et d'autres choses d'ailleurs également. Il s'appelle Michel Camus. Sur l'harmonica qu'il pratique remarquablement, il sait tout. Et
ah
même,
oui.
Hein, et même le reste.
Et c'est un vrai fan de cet instrument. Il en joue aussi bien du jazz que de la musique traditionnelle.
Que du country, que...
Voilà.
Que tout ce qui lui passe par la tête.
Donc il nous a fait l'amitié de bien vouloir nous jouer un morceau.
Alors, Mr. Harmonica, Michel, qu'allez-vous nous jouer maintenant, s'il vous plaît?
Je vais jouer Careless Love, suivi de Over the Sense.
Ah bah très bien connu, classique. Merci.
C'était la planèse du jazz.
À la planèse prochaine.